Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept, ce podcast est tout simplement un peu ma petite psychothérapie personnelle, ou on va dire professionnelle, puisque j'ai l'habitude d'inviter des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres dans plein de domaines différents, mais en général avec un focus business, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. On parle entrepreneuriat, on parle management, on parle RH, on parle humain, on parle développement personnel également, et j'adore essayer de décrypter avec mes invités ce qui a fait leur succès. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec Gérald Carcenti, qui est vraiment une personnalité extrêmement inspirante, je trouve. Et pour la petite anecdote, j'avais rencontré Gérald il y a quelques années lorsque j'avais fait un talk au Salon des Entrepreneurs. Gérald est professeur depuis maintenant 18 ans à HEC Paris. Il est d'ailleurs diplômé de l'université d'Oxford dans le domaine de la conduite du changement. Et vraiment, sa passion, si je devais résumer, c'est le leadership. C'est vraiment ce qui fait qu'il se lève le matin. Ça est un peu l'histoire aussi, on en parlera d'ailleurs dans l'épisode, mais globalement, vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que des êtres humains arrivent à faire suivre leur idée par une multitude de personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il enseigne tous ses concepts à HEC. Au-delà d'être professeur à HEC, Gérald a une carrière assez extraordinaire dans le monde professionnel, dans le monde corporate. Il a été directeur général de Hewlett-Packard en France, on en parlera rapidement. Il a également été directeur général d'Oracle en France. Il a ensuite rejoint SAP, une entreprise allemande, le premier éditeur de logiciels en Europe, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui, où finalement il a vraiment un rôle encore de leader puisqu'il est président directeur général et a pour mission d'accélérer la croissance de cette entreprise. Bref, on a parlé avec Gérald de leadership, on a essayé de comprendre les concepts qui se cachent derrière, mais ce que j'ai vraiment aimé avec cet épisode, c'est qu'on a avant tout parlé d'humain, on a parlé de comment tomber les masques, comment véritablement être soi-même, se montrer vulnérable, et c'est ça d'ailleurs, selon Gérald, ce qui fait la force des grands leaders. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à contacter Gérald sur son compte LinkedIn, puisqu'il est très actif sur ce réseau social, et puis aussi, un petit mot pour la fin, n'hésitez pas à écouter son podcast, qui est un podcast, je trouve, très intéressant, sur donc le monde de l'histoire et sur les leaders dans l'histoire. On en parle également dans l'épisode et je vous mets les notes justement dans les notes de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gérald Carcenti. Bonjour Gérald, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline.
Je suis enchantée de vous avoir avec moi. Alors, on a tellement de sujets à aborder, j'ai des notes dans tous les sens, Gérald. Ça va être un grand moment. Écoutez, pour commencer l'interview, je suis tombée sur une phrase que je crois que vous avez dite, que j'ai trouvée très interpellante et j'ai eu envie de vous la lire et que vous m'expliquiez en fait que vous avez voulu dire par là, que vous élaboriez un petit peu plus cette idée. Cette phrase, si je me trompe pas, c'est « L'optimisme est une caractéristique, une attitude du leader ». Il n'existe pas de leader pessimiste. On ne peut inspirer personne en étant pessimiste. Et je trouve que cette idée, elle est assez originale et intéressante parce qu'on peut avoir, au contraire, une idée reçue qui est qu'un leader, en fait, il est obligé d'être un peu presque parano et qu'il est obligé de vraiment rentrer dans les détails, etc. pour faire avancer les choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? Et au final, pourquoi est-ce que c'est aussi important en tant que leader d'être optimiste?
Alors, déjà, être optimiste ne veut pas dire ne pas être réaliste. C'est-à-dire qu'un leader, c'est quelqu'un, un dirigeant, un manager, qu'on soit à la tête d'une entité de 10 personnes, une entreprise de 2000 personnes ou un groupe de 100 000 personnes, ça revient à peu près au même. On est face à des difficultés, et le monde actuel est quand même pas simple, hein, faut bien le dire, et en fait, on voit les difficultés, on les voit, mais le leader, c'est celui qui, malgré les difficultés, va chercher les solutions pour les contourner, et pour avancer et aller de l'avant. La réalité, ce que je veux dire par cette phrase, il n'y a pas de leader pessimiste. Bah effectivement, quand on rentre dans l'entreprise, qu'on soit un dirigeant, qu'on soit un chef de gouvernement, un patron d'une association, peu importe l'entité qu'on dirige, les personnes qui sont sous notre responsabilité ou dans notre écosystème, dans notre environnement, ils nous voient comme la personne qui doit les inspirer. C'est quasiment une obligation. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'être un modèle. C'est d'être quelqu'un qui va les guider. Alors les guider dans le monde actuel, je pense que c'est même un peu plus complexe que ça. En tout cas, avancer des idées, trouver des voies, décider, parce que au final, le dirigeant c'est d'abord ça. Et celui qui arrive le matin en faisant la tête parce qu'il est incapable de laisser ses problèmes personnels sur le pas de la porte et qui les emmène avec lui, celui qui est catastrophé par ce qui peut arriver, une mauvaise nouvelle, un client qui décide de ne pas signer un dossier, etc. Des choses concrètes qu'on vit tous les jours et ça se voit, il est abattu. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut ne pas être abattu, on est des êtres humains. Mais je pense que le leader, c'est celui qui sait surmonter rapidement ses difficultés et qui trace des routes extrêmement optimistes et lumineuses. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de le suivre. Moi, j'ai l'habitude de donner une définition du leadership qui me paraît... Parce que le leadership, comme j'enseigne ça depuis 18 ans, j'ai des tonnes et des tonnes de charts, de tableaux, de business case, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je reviens toujours à cette définition que je trouve excellente. Le leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Ouais. Et j'aime bien cette phrase parce que elle dit tout en peu de mots. L'envie, parce que il faut donner envie. Or, on n'a pas envie de suivre un pessimiste. C'est pas possible.
Oui, c'est pas une obligation, c'est une envie. Ça, c'est très intéressant.
Oui, parce que en fait, en réalité, ce n'est pas vous qui décidait d'être un leader. On se déclare pas leader. On dit pas tiens je pense que j'ai les attributs du leadership. Je suis un leader. Non, c'est les autres qui nous voient comme un leader ou pas. Donc en fait c'est une perception. Et donc l'envie c'est ce qu'on génère chez l'autre. Il y a des personnes qui ne font rien pour être perçues comme un leader et qui vont être vues comme un leader. Et inversement, certaines personnes vont tout faire pour essayer d'être perçues comme un leader et n'y arriveront jamais parce que ça n'incarne pas, parce que les gens ne se reconnaissent pas dans cette personne ou dans les messages ou les valeurs qu'ils véhiculent. Ça veut pas dire qu'il n'est pas bien. Ça veut dire simplement que il y a des personnes qui, de façon parfois incompréhensible, on n'est pas forcément obligé de tout comprendre, mais inspire les autres et donne l'envie d'être suivi. Et puis, le mot suivre est important parce qu'en fait, vous pouvez très bien vous considérer comme leader en tant que personne. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas un leader. Ouais. Donc, pour être un leader, faut avoir des personnes, ce que disent les Américains, parlent de followers, mais il faut avoir des gens qui nous suivent. Alors, c'est le principe, finalement, au fond, des réseaux sociaux. On peut être un influenceur, on peut penser être un influenceur, mais si vous avez 100 personnes qui vous suivent, c'est pas la même chose que si vous en avez 200 000.
Et alors Gérald, dites-moi, quelle est la différence dans ce cas entre l'influenceur justement et le leader? Parce que c'est vrai que ce mot de suivre et de follower est très associé au monde de l'influence. Et je parle pas uniquement des réseaux sociaux, mais de manière générale, en fait, le fait d'influencer des gens. Et le leadership, alors je connais pas très très bien les définitions contrairement à vous, me paraît être quelque chose d'un peu différent, mais j'avoue que la distinction pour moi est pas très claire.
Ah bah pour moi la différence est énorme et elle se résume à je dirais presque à l'action. C'est-à-dire que l'influenceur c'est quelqu'un contrairement à d'autres je suis pas négatif sur la notion d'influenceur, je pense que ça a son rôle et ça a une importance. Modestement, je pense l'être un peu sur LinkedIn. En tout cas, j'ai le sentiment que quand on est sur un réseau social comme c'est mon cas sur LinkedIn, uniquement quasiment parce que c'est là que je poste, quand on apporte des choses, qu'on poste des choses, des notes, des réflexions, et qu'on a le sentiment vraiment d'apporter de la valeur aux personnes qui nous suivent, c'est extrêmement positif pour la personne qui poste. Enfin, en tout cas pour moi, je le ressens comme ça. Et quand les personnes m'écrivent, je prends soin. Il y a des moments comme en ce moment, par exemple, parce qu'il y a pas mal d'activités, j'ai un peu de retard, mais je fais en sorte de répondre à tous les messages que je reçois, et j'en reçois beaucoup, donc désolé pour ceux qui sont dans l'attente, mais ça arrive toujours, je finis par répondre, et donc l'influenceur, c'est celui qui va donner des idées, lancer des messages, voilà. Le leader, c'est autre chose. Il est soit à la tête d'un parti politique, soit à la tête d'une entreprise, quelle qu'en soit sa taille, soit à la tête d'une équipe, quelle qu'en soit sa taille, et qui agit. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de véhiculer des messages ou des belles pensées ou de reposter quelque chose qu'il a vu quelque part et qui peut influencer, qui peut apporter de la valeur à son réseau. Non, il est dans l'incarnation. C'est-à-dire qu'il a les attributs du leadership, il pose une stratégie, il l'explique à son équipe et il dit « maintenant, on y va ». Et normalement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, le leader, c'est la définition du leader par rapport au manager et le manager par rapport au leader est une définition assez étroite, mais très claire néanmoins. Le leader, c'est celui qui quand même va chercher à faire arriver les trains à l'heure, malgré tout. Donc, c'est ça la grande différence. C'est qu'il y en a un qui est dans l'action et dans le résultat, l'autre est dans le c'est un, il se sert finalement des réseaux pour véhiculer des messages, et ses idées.
Ce oui, il y a moins d'action.
Ce qui est très bien dans les deux cas. Et les deux sont complémentaires. C'est-à-dire ouais. que plus vous êtes finalement capable d'influencer une population plus importante, et plus vos équipes auront tendance à se retrouver dans ce que vous dites et dans vos valeurs. Donc les deux peuvent être liés. Alors après, il faut, c'est là qu'est la nuance, c'est que on voit bien où peut mener l'influence. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certains influenceurs qui pour moi sont plus dans le show-off qu'autre chose. Voilà. Donc il y a une nuance, mais vous voyez, par exemple, votre podcast, il apporte une valeur indiscutable à un nombre incalculable de personnes. Donc ça, c'est à la fois de l'influence et à la fois de l'incarnation. Mais en même temps, vous êtes dirigeante. Alors voilà, là, on a vraiment le bon exemple de la.
Mais dites, un peu comme vous finalement.
Ouais, d'une certaine façon, mais
à mon échelle.
Mais ça fait toute la différence. Mais les deux sont importants.
Non, mais c'est intéressant.
À condition de doser, on va dire.
Si j'en reviens à ma première question sur l'optimisme, vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant, c'est on peut pas être bien tout le temps. On a cette volonté de vouloir être lumineux en tant que leader, de vouloir faire suivre, donc de montrer le chemin, d'inspirer, de donner envie, mais en même temps, on a tous des moments difficiles et notamment, on en a tous vécu en tant que dirigeant. Hein. Il y a des moments où ça va moins bien, à titre personnel, à titre professionnel. J'aurais aimé avoir vos conseils là-dessus. J'ai cru lire dans votre dernier livre, L'art de bâtir une équipe, justement, que vous parliez d'être soi-même et de comment l'assumer via quelques astuces. Je veux bien qu'on parle de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui, justement, se disent, comme je dois montrer cette image d'optimisme, je ne peux pas non plus être moi-même et je dois parfois mettre une sorte de masque. Je ne vais pas pouvoir montrer les moments difficiles. Je ne vous cache pas que moi, en ce moment même, j'ai une période un peu difficile à titre personnel. Et du coup, c'est rigolo parce que j'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un de mon équipe qui m'a dit « Mais en fait, j'aimerais bien que tu nous en parles plus de tes problèmes parce que finalement, là, tu les caches un peu. » Et donc, je voulais avoir votre conseil là-dessus et savoir pour les personnes qui nous écoutent, que faut-il faire quand on vit ces périodes un peu difficiles pour quand même garder une forme d'optimisme.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'enseigne à HEC depuis 18 ans et à l'ESCP aussi. C'est une question que les étudiants me posent tout le temps. C'est-à-dire que c'est comment on fait finalement quand on est un leader pour se mettre une carapace, regarder les politiques. C'est quand même eux, ils sont sur les lumières en permanence. Donc, et ce sont des êtres humains. Donc forcément, ils ont des problèmes et ils sont pas toujours au top niveau. Alors. Moi, j'ai déjà une première théorie là-dessus, c'est que je pense que il faut montrer ses émotions, montrer faut pas montrer ses faiblesses. Voilà, c'est le premier message. Je pense que un leader, on n'a pas envie de voir un Emmanuel Macron, si je prends l'exemple du président, venir nous expliquer tous les problèmes qu'il a. Je pense pas qu'on attend ça. Par contre, qu'il puisse sur un sujet donné expliquer les pour et les contre, ses doutes, voir ses doutes. Hein. Quand on est dirigeant d'entreprise, on peut très bien dire « j'ai une décision à prendre importante, c'est un virage important pour nous tous, je pèse le pour et le contre, j'ai des doutes, je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir ». Ça, le doute, c'est plutôt même salutaire parce que les personnes autour du leader vont eux-mêmes ont plein de doutes sur plein de questions, et se disent finalement c'est un être humain comme tout le monde et puis il est face aux doutes et aux problématiques. Quand on a des problèmes personnels, c'est encore autre chose. Moi je crois que la force d'un leader, c'est d'être capable justement de laisser ses problèmes sur le pas de la porte et quand il est face à ses équipes d'être à 100% avec eux Et ça n'est pas toujours facile parce qu'il y a des moments où les problèmes personnels peuvent être, vous voyez, la personne qui apprend qu'il vient d'apprendre qu'il a une grave maladie et qu'il dirige un groupe, une grande entreprise ou une petite entreprise, peu importe, et que les gens attendent de lui une mobilisation toujours permanente et totale, c'est compliqué. Ouais. Donc, il y a des moments, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux plutôt que d'aller, générer des questions autour de soi parce qu'on n'est pas bien, bah prendre 3 jours, on bloque l'agenda, puis on se dit bon, je me prends un break et puis je gère mon problème et puis je reviens quand je suis mieux. Et puis moi, je préconise toujours la même chose, c'est le coaching. Je pense qu'il faut avoir un coach. Arriver à un certain stade, je pense que le coach, qui peut avoir différentes formes, ça peut être un coach professionnel, ça peut être un ami, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et à qui on se confie, mais quelqu'un avec qui on a vraiment une confiance absolue et quelqu'un qui n'a pas d'agenda, si ce n'est de vous aider. Ça, je crois que c'est important. Parce que je crois qu'à un certain moment, il faut être capable d'avoir quelqu'un, un miroir, vers qui on peut se tourner, à qui on peut tout dire, et à qui on peut exprimer ses doutes. Je suis pas certain qu'une équipe autour de soi soit là pour recevoir
la bonne solution.
Pas. Je pense qu'ils sont là, qu'il y ait des échanges autour de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça me pose aucun problème. Moi personnellement, si je prends mon cas vis-à-vis des personnes qui sont à qui je peux rapporter, si un membre du board d'SAP me dire voilà, j'ai plein de problèmes, etc., je l'écouterai. Si c'est en personnel, oui, si c'est one to one, ça m'est arrivé d'ailleurs, bien sûr, là je discute avec lui et je n'aurais pas du tout l'impression que tout d'un coup, parce qu'il m'a révélé un problème,
il n'est pas compétent ou quoi que ce soit.
Son image n'est plus la même vis-à-vis pour moi, donc pas du tout. Au contraire, je discuterai avec lui. Là où je suis plus réservé, c'est quand la personne n'est pas capable de gérer sa problématique personnelle et ça se voit auprès de tout le monde. C'est-à-dire que les équipes se disent, oula, il y a un truc, il se passe quelque chose. Et ça peut arriver. Bah, moi, ouais. je redis, pour synthétiser, je pense qu'il vaut mieux faire un break, régler son problème et revenir. Ou alors, si on est capable de le faire, essayer de garder ça sous contrôle avec un coach à côté qui va nous aider, nous accompagner et ça marche plutôt très bien.
C'est intéressant ce que vous dites au niveau du coach parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, il me faut un coach » mais qui ne savent pas forcément où aller le trouver. Et vous nous dites « Mais finalement, ce coaching n'est pas forcément fait par un professionnel, ça peut être un ami, ça peut être, je sais pas, un associé. » Enfin bref, quelqu'un de confiance à qui on a envie de se confier. Et ça, je pense que c'est assez puissant et beaucoup de personnes, à mon avis, dans le monde professionnel, n'osent pas utiliser cet outil qui est l'entourage, quoi, tout simplement, parce qu'ils se disent « Ah ben non, dès lors que c'est professionnel, il me faut un coach. » Or, le coach, il faut quand même le trouver, il faut le payer, etc. On n'a pas forcément les moyens. Donc, je dis pas qu'il faut pas de coach. Hein. Évidemment, c'est une solution encore probablement plus intéressante. Mais on peut aussi se faire aider, ne pas être enfermé dans son problème seul si jamais on n'a pas de coach. Donc, je trouve que c'est intéressant.
Parce que un coach, c'est vrai que un coach, ça coûte cher. Ça peut coûter cher. Un bon coach, ça peut coûter cher. Ouais. Mais en même temps, souvent, c'est de l'argent qui est bien investi. Parce que si la personne est de qualité, c'est de l'argent qui est bien investi. C'est quelqu'un qui va vous aider à accompagner votre évolution. Donc, c'est plutôt bien. Maintenant, encore une fois, moi, je peux vous le dire à titre personnel, j'ai un coach depuis, je pense, 25 ans.
Même Gérald Carcenti a un coach, chers auditeurs. Donc, ça veut dire que c'est...
Et c'est un ami. Et il se trouve que je me suis demandé un jour, tiens, c'est marrant, cette question m'amène à lui. Je lui poserai la question si finalement c'est notre, parce qu'en fait finalement après coup il s'est formé au coaching, et donc il est devenu coach certifié et professionnel. Mais au moment où on a commencé ça sans se le dire, eh ben il avait pas du tout.
Ah, c'est drôle.
Moi, pourquoi je l'ai choisi? Parce que d'abord c'est un ami en qui j'ai confiance totalement. C'est une confiance absolue. C'est quelqu'un qui n'a pas d'agenda. Autre que de discuter avec moi. Ce qui veut dire aussi que de temps en temps, c'est moi qui lui apporte de l'aide, hein, et j'essaie de le faire le plus possible. Mais en tout cas, il n'a pas d'agenda. Mais c'est surtout quelqu'un, et ça c'est peut-être le conseil le plus important, j'ai détecté moi-même chez lui une capacité, d'abord c'est quelqu'un d'intelligent, et c'est quelqu'un qui a cette capacité à écouter et à comprendre la problématique, et comme il est lui-même dans le business, il sait de quoi il parle, c'est-à-dire que il sait de quoi je parle, c'est-à-dire que il est, parce que c'est ça qui est embêtant parfois avec certains coachs, c'est quand ils ne viennent pas du monde du business, En fait, au fond, c'est très théorique, leur coaching.
Oui, c'est psychologique plus que concret, quoi, parfois.
Bah oui, parce qu'en fait, quand vous parlez avec votre coach de choses que vous vivez, si lui-même a été un entrepreneur, si lui-même a été un dirigeant, bah il sait exactement de quoi vous lui parlez, et donc il est beaucoup plus pertinent et avisé dans ses conseils. Donc il faut avoir une espèce de mixte entre la pertinence intellectuelle, la pertinence psychologique, et puis le pragmatisme, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner des conseils pas enfumés, mais des choses qui sont vraiment concrètes et que vous pouvez mettre en place pratiquement tout de suite. Et puis surtout, dernier point, ça aussi c'est un conseil important, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous dire la vérité.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire la vérité.
Qui n'a pas, oui voilà, parce qu'il n'y a pas d'agenda, et qui n'a pas non plus peur de vous vexer, parce qu'il sait qu'on est amis, en même temps, il y a une confiance mutuelle, et qui va vous dire, tu déconnes, quoi, tout simplement. C'est pas ce que tu rêves. Alors attention, je précise quand même que, parce que je parle d'amis, il se trouve que moi, c'est devenu un ami très rapidement, et depuis 30 ans, on se connaît, mais il faut aussi faire attention, parce que parfois, l'amitié et cette relation un peu plus personnelle peut nuire à l'opération de coaching. C'est-à-dire que on le dit toujours, il faut qu'il y ait quand même une indépendance affective pour l'efficacité du coaching. Donc c'est à nous de doser. Moi, je sais que j'ai jamais ressenti ça avec lui. J'ai toujours continué parce que j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait une espèce de mélange des genres. Voilà, ouais. C'est comme ça que je le dirais. Mais parfois, ça peut être le cas. Donc, je veux quand même attirer l'attention. C'est pour ça qu'il faut prendre bien le temps de choisir la personne à qui on a envie de se confier. Se confier, c'est un acte très courageux, pas pour la personne qui écoute, parce que c'est une sorte de responsabilité finalement. Mais c'est aussi très courageux pour la personne qui parle, parce que ça veut dire que vous allez vous confier sur des choses très personnelles, voilà, que vous n'allez pas dire à tout le monde. Mais moi, je suis souvent surpris. Je dois dire assez agréablement surpris, même si je suis surpris. C'est que les personnes parfois en ont tellement, ils portent tellement de choses en elles parce qu'elles ont des problèmes à la maison, ces personnes, ou elles traversent des moments professionnels un peu plus compliqués, etc. Que quand vous leur ouvrez la porte, et je pense que la mienne est toujours ouverte dans l'entreprise, eh bien les personnes viennent se confier et vous disent des choses qui des fois dépassent même ce que vous attendiez. Parce que les gens ont besoin de parler. Vous parliez tout à l'heure d'un article que j'avais publié. En fait, j'avais publié un article dans la Harvard Business Review France qui s'appelait « Tomber les masques, oser être vous-même », quelque chose comme ça. Ouais. Soyez vous-même, soyez vous-même. Et l'article ce papier a eu beaucoup, beaucoup de succès, entre guillemets, et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis rendu compte, en fait, que nous sommes tous, finalement, dans l'attente de quelque chose. On a besoin d'authenticité, on a besoin d'être écouté, on a besoin de se dire comment je peux être moi-même, finalement, comment je peux montrer, non pas... Pour ça, j'avais appelé ça « tomber les masques », parce que, finalement, on passe notre vie à mettre des masques. En entreprise, dans notre vie personnelle, on passe notre vie, on sait à peu près ce que les gens attendent de nous, et au bout d'un certain temps... Et donc, on passe notre temps à se mettre un masque. Puis quand on change d'environnement, on en remet un autre. Et je pense que l'efficacité, c'est quand on n'a plus besoin de mettre de masque. C'est quand on est soi-même tout le temps. Et c'est facile à dire. Et sincèrement, ce n'est pas simple à faire. Mais c'est quand même là qu'on est le mieux dans sa vie et dans sa peau. Quand on est vraiment soi-même tout le temps.
Justement, dans le livre L'art de bâtir une équipe, à la fin du livre, vous parlez en fait de cet article et vous parlez notamment de tomber le masque. Et donc, c'est à cette occasion, moi, que je l'ai découvert. Et vous parlez d'actions concrètes pour réussir à tomber le masque. Parce que comme vous avez très justement dit, c'est loin d'être simple et ça fait peur. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ou deux exemples d'actions concrètes, peut-être même que vous avez vécu pour tomber le masque?
Je pense que il faut avoir réfléchi à son système de valeurs personnelles. C'est la première chose, parce que lorsque vous allez quand vous êtes dans l'entreprise et vous savez bien, vous êtes confronté à une multitude de problèmes, c'est-à-dire des personnes qui viennent mettre sur votre table des sujets divers et variés, mais qui sont parfois des sujets extrêmement importants. Puis vous allez être confronté aussi à tout un ensemble de sujets un peu potentiellement, enfin moi j'ai eu la chance dans ma carrière de diriger de très très grosses équipes, quand on a des équipes de 12 000 personnes ou voire plus, ce qui m'est arrivé, forcément par nature vous allez avoir plein de sujets, donc du racisme, du harcèlement moral ou sexuel, des propos inacceptables, voilà, vis-à-vis des femmes notamment, c'est un sujet que sur lequel je travaille beaucoup. Donc vous êtes face à ça. Eh bien, tomber les masques, c'est aussi faire connaître aux autres vos positions, qui doivent être extrêmement bien dosées, parce que il ne faut jamais oublier que on n'est pas des donneurs de leçons quand on est un dirigeant. On n'est pas là pour faire l'éducation des personnes. Alors on peut effectivement participer à ça, mais notre rôle premier, c'est pas ça. Notre rôle premier, c'est de diriger l'entreprise. Et pour diriger l'entreprise, eh bien, il faut avoir des valeurs et des principes. Et donc, il faut les faire connaître. Donc, vous mettez vos limites. C'est-à-dire que vous dites, voilà, ce qui est acceptable, pas dans la vie. Moi, je ne suis pas tout le monde et je n'ai pas vocation à dire le bien ou le mal du tout. Mais moi, en tout cas, je pense que je défends une entreprise. On a des valeurs dans l'entreprise. On a une charte. Toutes les entreprises en ont. Et je suis le garant de ça. Donc, ben voilà, moi, j'ai dit très rapidement, si je prends l'exemple des SAP, quand je suis arrivé à la tête des SAP il y a 5 ans, j'ai dit assez rapidement et en public, c'est-à-dire dans des conférences, que je vais tout faire pour former à la fois les hommes. On est très masculin, on a beaucoup amélioré, mais c'est un environnement, la tech, quand même très masculin.
Plutôt masculin, ouais.
Voilà. Et avec de temps en temps des comportements, je parle pas des SAP, là, je parle du secteur de la tech en général. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai dit, je l'avais fait chez HP quand j'étais le PDG d'HP. Très clairement, on va former les hommes, former les femmes, coacher, mentorer, faire de l'accompagnement. On va faire plein de choses. Mais au bout du compte, si malgré ça, il y a des comportements que je citais qui arrivent, il n'y aura pas de deuxième chance. C'est-à-dire qu'on va tout faire en amont pour vous aider à comprendre, etc. Et vous accompagner, et vous aider à réfléchir, et à vous poser les bonnes questions. Mais à un moment donné, il y a un certain nombre de valeurs qui sont claires. Il n'y a pas de propos racistes acceptables dans l'entreprise. Il n'y a pas de harcèlement possible dans l'entreprise. Certaines paroles peuvent être destructrices. Il faut le savoir. Appeler quelqu'un pour le business 10 fois après 20 heures, c'est du harcèlement. Voilà. Donc il y a un certain nombre de comportements. Alors après, la graduation est pas la même, mais c'est ça. Moi, je pense que tomber les masques, déjà, de définir très clairement la ligne de ces valeurs et ce qui est acceptable ou pas pour vous. Ensuite, c'est d'être toujours, je pense, conforme à ce que vous dites. C'est-à-dire que le pire qu'il puisse y avoir, c'est d'avoir un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment pour moi, quand je donne un conseil à mes étudiants ou à mes équipes chez SAP, je leur dis toujours, ou avant, je leur dis toujours, soyez conformes à ce que vous faites. Je vais prendre un exemple concret, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont dans le business, face aux clients. Quand vous êtes un client, c'est quoi ? Un client, c'est une personne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un client va décider de rentrer en affaire avec vous plutôt qu'un autre ? Ben c'est parce que il a envie. On revient à ma définition de tout à l'heure. C'est toujours de l'envie. C'est de la séduction. On se comprend. Hein, c'est une forme de séduction.
Non, mais bien sûr, une forme de séduction. Bien sûr.
De la séduction.
Donner envie de suivre, comme vous disiez.
Et bien sûr. Et donc, si vous êtes face à un client et que vous lui dites, voilà pourquoi vous devriez venir travailler. Vous devriez nous choisir comme, et on serait très honoré, comme fournisseur, comme prestataire de service, peu importe. Parce que nous avons ça, ça et ça et ça. Et la façon dont je vais travailler avec vous, c'est ça, je vais travailler de cette façon-là. Évidemment, si vous lui dites que vous allez être réactif et qu'à la première note qu'il vous envoie, vous mettez 15 jours à lui répondre, eh ben, vous n'êtes pas cohérent. Donc, l'authenticité, la façon d'être, la cohérence, l'alignement entre ses paroles et ses actes, ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce qui permet aux équipes de vous suivre, parce que il y a quelque chose de très notable, et on l'a tous au moins vécu une fois, moi je le vis souvent, c'est que je crois que les équipes qui nous suivent perçoivent le fait qu'on soit vraiment ce que l'on dit être ou pas.
Il y a une perception, je trouve, des équipes qui est d'une finesse
Bah oui.
Terrible.
Et moi, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais dans un job précédent, un de mes managers que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup toujours, était venu me voir en me disant « Écoute, j'aimerais que tu me donnes un conseil parce que je vois bien, j'essaye de regarder ce que tu fais, ce que d'autres font. » Et je vois bien que j'ai la valeur, j'ai le contenu, j'ai la maîtrise technique, mais je n'arrive pas à générer la même envie pour que les gens me suivent. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je lui avais donné ce conseil tout bête. Je lui avais dit, j'avais pas écrit encore l'article, donc, mais je lui avais dit, sois toi-même.
Ouais.
Sois toi-même. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Après, je lui dis, accepte la sanction qui va être derrière, la sanction ou le bénéfice, c'est-à-dire que soit en étant toi-même, les gens ont envie de te suivre et tu réaliseras ton objectif, puisque c'était son objectif. Soit, ben, ça ne marchera pas. Et ça veut dire simplement que ça veut pas dire que t'es pas une belle personne et que tu n'as pas du talent, mais ça veut dire peut-être qu'il faut que tu fasses autre chose. Parce qu'il y a des moments où il faut aussi accepter que certaines personnes sont douées pour être chanteurs, d'autres pour être acteurs, et puis d'autres sont de très bons managers, puis d'autres seront jamais de très bons managers. C'est comme ça. On ne peut pas être doué partout. Donc il faut aussi accepter la chose. Être un manager, c'est quelque chose de complexe. Hein.
Ouais.
C'est un autre sujet, mais c'est pas si simple que ça.
Alors justement, j'ai lu aussi de votre part, parce que vous avez beaucoup écrit, avec ces 18 ans quand même à HEC, je pense que vous avez créé quand même beaucoup beaucoup de contenu et beaucoup de réflexions. Mais je lisais au niveau du management que vous dites qu'un excellent manager, c'est quelqu'un d'exigeant qui fait progresser ses collaborateurs avec de la bienveillance. Et en fait, vous expliquez qu'il y a un dosage entre exigence et bienveillance que je trouve intéressant parce que évidemment très difficile à trouver. Et je pense qu'on est nombreux en tant que manager, en tant que dirigeant, à se poser la question parce qu'on peut tomber dans un excès d'une part ou d'une autre parce qu'on apprécie quelqu'un être dans l'excès de bienveillance. À l'inverse, parce qu'on a quelqu'un dans le nez ou je ne sais quoi, être dans l'excès peut-être d'exigence. Donc, est-ce que vous auriez un retour d'expérience, des astuces aussi pour nous partager finalement comment faire pour trouver ce dosage entre donc bienveillance et exigence qui est, je trouve, assez difficile.
Alors, déjà, la bienveillance, c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire que, il y a la nature, il y a des personnes qui sont naturellement bienveillantes et d'autres qui ne le sont pas forcément autant par nature. Pourquoi ? C'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, c'est parce que elles sont généralement submergées par d'autres objectifs, par l'ambition, par exemple.
D'accord.
L'ambition n'est pas négative, hein, mais par une ambition qui est peut-être excessive. Donc la bienveillance, c'est quelque chose qu'on a, mais qu'on peut travailler. Faut le dire parce que on peut très bien par des études de cas, par des réflexions avec des personnes appropriées, vivre des expériences et se rendre compte à quel point la bienveillance est quelque chose qui peut apporter un bien. Généralement, on devient encore plus bienveillant avec l'âge. Donc c'est un peu dommage. Pourquoi on le serait pas dès le début?
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Donc après, il y a effectivement toujours cette opposition parfois entre performance et bienveillance, et exigence et bienveillance. Bien, moi je crois que pas du tout. Je pense que encore une fois, quand on est dans l'entreprise, c'est se raconter des histoires que de se dire que le but, c'est de construire un environnement, un cocon dans lequel tout le monde est heureux, tout le monde est beau, tout le monde est... Non, attendez. L'entreprise, c'est d'abord d'avoir des résultats parce qu'on a une responsabilité. La responsabilité, c'est quoi ? Bah, c'est de faire du profit. Pourquoi faire du profit ? Parce que c'est noble, parce que c'est pour investir dans la R&D, sortir de nouveaux produits, de nouvelles offres, c'est pouvoir embaucher. C'est pouvoir développer des initiatives de partenariats qui parfois, c'est le cas chez SAP, peuvent être touchés à la responsabilité sociétale des entreprises ou à des associations ou à vraiment des buts comme l'inclusion par exemple. Typiquement, on a un programme sur l'autisme. Ben, si on n'avait pas de profit, on aurait du mal à investir dans des sujets aussi importants que ça. Donc l'exigence qu'on vient de citer avant est super importante parce que l'exigence c'est de dire d'abord parce qu'il faut des résultats, ensuite parce qu'il faut du respect vis-à-vis des clients. Moi par exemple, je dis toujours à mes équipes commerciales, quand un client vous écrit, vous avez quelques heures pour lui répondre, au moins faire un accusé réception, au moins un accusé. Moi je le fais. Si moi je le fais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Donc l'idée c'est de dire, je reçois un mail d'un client, même si j'ai pas la réponse, je commence par lui dire merci de votre message, j'ai bien noté, j'en ai pris connaissance. Je suis en train d'y travailler avec les équipes. Je reviens vers vous d'ici la fin de la semaine ou dans 2 jours. Bon, voilà. Déjà, le client, il reçoit ça. Il se dit, bon, je suis pris en compte. J'existe. Voilà. Et puis, en plus, il est cohérent avec ce qu'il m'avait dit avant. Donc, c'est ça, l'exigence. L'exigence, c'est le respect de l'autre. C'est le respect des résultats. Parce qu'il faut avoir des résultats pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, pourquoi le lien avec la bienveillance? Parce que beaucoup ne savent pas doser, justement. Et donc, quand ils sont dans l'exigence, dans cette espèce de micro-management, vous voyez, le fait de derrière les personnes et de leur dire, ouais. Tu m'avais dit que tu appellerais le client, est-ce que tu l'as appelé? Si tu l'as appelé, qu'est-ce qu'il en est sorti? Je veux connaître leur... Non, ça...
Qui peut mener d'ailleurs à des situations un peu de harcèlement où on demande 10 fois de suite à la personne de faire cette tâche.
Totalement. Et on a tous connu ce genre de personnes qui généralement ont des résultats, parce que c'est ça qui est fabuleux, c'est que les micro-managers ou ceux qui tombent assez rapidement dans le harcèlement ont des résultats. Enfin, en tout cas, moi, j'ai observé que 9 fois sur 10, ils ont des résultats. Mais ils ont des résultats de court terme. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi ils ont des résultats? Tout simplement parce que la nature humaine est ainsi faite, c'est que les gens ont besoin de travailler, ils ont besoin d'un job. Donc quand ils ont un espèce de manager qui est limite tortionnaire, qui va mettre de la pression et qui va être un autocrate finalement, ils se plient un peu à lui pendant un certain temps, jusqu'à la révolte. On a connu ça dans l'histoire, hein, jusqu'à la révolte, c'est-à-dire jusqu'au moment où les gens disent non, c'est fini. J'arrête. Et donc, ils démissionnent, ils partent. Enfin, on assiste à toutes sortes de choses. Et c'est la limite de ce management-là. Donc, la bienveillance, c'est quoi? C'est de dire, on peut être amené à être exigeant, mais sans tomber dans la brutalité et la violence du tout. On peut être tout à fait accompagné. Moi, il m'est arrivé de, comme tous les managers, des dirigeants, de me séparer de personne. Mais, ce que j'essaye de faire en général, c'est de me dire, c'est simplement des personnes qui ne sont pas sur le bon job. Donc, le premier réflexe, c'est de dire, on va le déplacer, mais sur un autre job où il va être plus heureux. Et ça m'est arrivé plein de fois de voir une personne patauger dans un job et exceller dans un autre. Ouais. Et puis, quand malheureusement, ça n'est pas du tout possible, parce qu'on trouve pas l'espace dans l'entreprise, on n'a pas des jobs à l'infini, eh bien, c'est d'accompagner la personne, lui laisser le temps pour se préparer à l'étape suivante, l'accompagner éventuellement en faisant de l'outplacement, en lui payant une formation, en l'aidant pour se repositionner. C'est ça, la bienveillance. Pourquoi? Parce que, de toute façon, une personne qui quitte l'entreprise, que ce soit volontairement ou involontairement, c'est peut-être demain quelqu'un que vous retrouverez sur votre route.
Bien sûr.
C'est quelqu'un qui va être potentiellement un client un jour, etc. Donc c'est du bon, et puis c'est du sens humain tout simplement. C'est du bon sens humain. On n'est pas là pour c'est facile. Vous savez, quand on est manager, on a une toute petite autorité sur une équipe limitée. Y a des gens qui se sentent investis de tous les pouvoirs tout d'un coup, et alors que c'est totalement absurde parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Un manager, je rappelle au passage, un dirigeant d'entreprise, je suis dirigeant, tout peut s'arrêter à tout moment.
Ouais. Et donc, le Covid nous l'a bien rappelé dans certains cas que la vie est longue et faite de beaucoup de soubresauts.
Ah oui.
C'est passionnant, Gérald, et je vous remercie. Alors, vous m'avez quand même tendu pas mal de perches en me citant le fait qu'il y a beaucoup de leaders historiques qui ont fait telle ou telle chose, et donc je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, parce que je sais, donc là vous êtes passionné en ce moment avec Franck Ferrand de ce sujet des leaders historiques, et que vous avez donc cette émission dont j'aimerais bien parler sur les leaders historiques. Alors déjà, peut-être, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce domaine? Donc, je sais que vous êtes intéressé par le monde du leadership, mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous dites « Ok, je vais participer à une émission pour parler de leaders historiques et essayer de les analyser ?» Comment est-ce que c'est arrivé? Et puis, est-ce que vous auriez peut-être quelques enseignements que vous pourriez nous partager qui vous ont le plus marqué au sein de ces quelques leaders que vous avez déjà étudiés?
Alors, en fait, alors ça, c'est un peu ma, non pas ma récréation, ça peut l'être, mais c'est.
J'ai l'impression que vous vous ennuyez pas quand même, si je puis me permettre, Gérald.
Non, c'est là on touche vraiment. Il faut faire ça dans la vie. Moi, c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs. C'est moi, j'ai quand même pas mal d'expérience, donc j'aimerais en avoir un peu moins parfois, mais je veux dire en âge. Ce que j'ai aimé faire dans ma vie, dans ma carrière, et je continuerai autant que je le peux, c'est mêler l'action, parce que quand on est dirigeant, on est dans l'action, la réflexion, ce que je fais en enseignant, et puis la passion. Et là, on parle d'un projet de passion qui rejoint d'ailleurs les deux autres sujets. Alors, j'enseigne le leadership depuis toujours. C'est un sujet qui m'a toujours passionné parce que j'ai vu comment des femmes et des hommes peuvent changer la face des choses par leur action, par leur présence, par leur acte, par ce qu'elles incarnent. C'est une évidence. Et donc, le leadership m'a toujours passionné. Et puis je suis un hyper passionné d'histoire. Je voulais être prof d'histoire quand j'étais quand j'étais jeune. Donc l'histoire, c'est ma passion, on va dire numéro deux, on pourrait dire. Et donc, comment est née cette histoire? Très simplement, j'ai à l'époque, le patron de Radio Classique, c'est Jean-Francis Pécresse, qui est un ami, qui est quelqu'un que j'aime bien beaucoup. Et je vais le voir, on déjeune ensemble, et je lui dis, tu sais, moi je me passionne pour l'histoire et pour le leadership, il n'y a pas de podcast aujourd'hui, à ma connaissance, qui traite de « je prends un personnage historique » ou « je prends un fait historique » et je vois comment on peut en tirer des leçons de leadership pour notre vie actuelle, pour aujourd'hui ou demain. Et il trouve l'idée géniale, il me dit « mais tu ne peux pas faire ça, je pense, seul, il faudrait que tu aies avec toi un historien, par exemple, ce serait quand même mieux ». Parce que vous pourriez vous partager les choses, et comme t'es passionné d'histoire, ben, ça se fera bien. Il me cite Franck Ferrand, qui est évidemment l'historien que nous connaissons tous et qui fait un carton plein sur Radio Classique, parce qu'il est talentueux à l'extrême. Vraiment, c'est quelqu'un de... Alors, maintenant, je le connais beaucoup mieux maintenant, c'est quelqu'un de vraiment talentueux. C'est un conteur, c'est pas juste un historien, c'est un conteur, c'est quelqu'un qui rend les histoires incroyables. Et quand il m'a dit Franck Ferrand, j'ai dit bah ouais, là oui.
Donc
on
s'est rencontrés
avec Ferrand, on a déjeuné tous les trois, on a commencé à bâtir l'équipe, et là on s'est pris tous les trois de passion pour ça. C'est le cas avec la nouvelle équipe de direction de Radio Classique. Au passage, c'est une radio absolument fabuleuse. Vraiment, je connais bien les médias. Franchement, là, toutes les personnes que je rencontre à Radio Classique sont incroyables. Et donc, l'idée est venue d'appeler ça Grand Leader, les leçons de l'histoire. Et donc, à chaque épisode, eh bien, on prend un personnage principal, un personnage secondaire, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui est en résonance avec le premier personnage, et puis un thème. Alors, on a traité, pour l'instant, il y avait 4 épisodes publiés. On a traité Alexandre le Grand et Darius III sur le thème de l'ambition. On a traité Jeanne d'Arc et Yolande d'Aragon, très peu connue, mais c'est quand même une femme qui a sauvé la France à cette époque-là. Vraiment, on peut le dire. Sans elle, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sur le thème de l'inspiration, bien sûr, avec Jeanne d'Arc. Louis XIV, Colbert, sur le thème du rayonnement. XIV, c'était le roi soleil. Et puis, le dernier qu'on a publié cette semaine, Martin Luther King avec Gandhi sur le thème de la contestation. Et on l'a appelé contestation. En réalité, c'était trop long. Donc, on a résumé, mais c'est ce qu'on traite dans le podcast, la contestation non violente. Puisque c'est eux qui ont inventé cette forme de contestation qui perdure toujours aujourd'hui pour certaines personnes. Et donc, on en tire vraiment des leçons de leadership. C'est-à-dire qu'on mélange, on parle de la vie de ces personnes, on prend certaines théories de leadership et on essaye d'analyser le leadership de ces personnes, et puis surtout ce qu'elles ont permis de générer pour qu'on puisse s'en inspirer aujourd'hui, vous voyez, ce qu'on puisse s'en inspirer. Et voilà, et ça je pense que ça résonne bien, parce qu'en 25 minutes, entre 25 et 30 minutes, c'est plutôt 27 minutes, donc c'est assez court, mais en même temps on peut dire beaucoup de choses. Et c'est un dialogue, comme nous le faisons là aujourd'hui. Et oui, moi ça m'excite beaucoup.
J'aimerais revenir un peu à votre enfance, Gérald, si vous l'acceptez. Vous avez dit de manière un peu sous-jacente que vous étiez passionné d'histoire. J'aimerais vous poser quelques petites questions indiscrètes et vous demander, bah voilà, si vous pouviez me parler un petit peu de là où vous êtes né, et puis. Bah, comment était votre famille, vous, petit Gérald, comment vous étiez? Est-ce que vous aviez déjà un peu ce talent pour le leadership? Est-ce que ça s'est fait plus tard? Décrivez-moi un peu ça.
Alors, là où je suis né, c'est compliqué parce que c'est un sujet qui occupe beaucoup mon esprit actuellement, pour tout vous dire. Vous voyez, je vais vous faire une révélation. je suis né en Algérie, donc de parents français, je suis ce qu'on appelle un pied noir, hein, d'une certaine façon, je suis une famille pied noir, tout au moins, mais j'y suis resté 2 mois, en Algérie. Donc, en fait, je n'ai jamais mis les pieds là où je suis né. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait réfléchir, parce que c'est bizarre de se dire qu'on n'a jamais vu l'endroit où on est né. Ça me fait penser, je crois que c'est Maxime le Forestier qui avait cette chanson « Être né quelque part ». Je crois que oui. Alors pourquoi? Parce que j'ai rencontré il y a pas longtemps des start-upeuses qui sont d'origine algérienne et qui y vont fréquemment, et je leur ai dit tiens, j'ai partagé ça avec elles, et on s'est dit tiens, on pourrait organiser un voyage, et je pense que je vais le faire parce que je pense que je vais y aller. Il est temps. Alors surtout que il faut bien comprendre que l'Algérie française, telle qu'elle était avant l'indépendance, c'était quand les mes grands-parents, mes parents, ma famille m'en parlaient, c'était ils décrivaient un monde qu'on se dit je veux vivre ça, je veux voir ce monde-là parce qu'il est tellement merveilleux. C'était presque idyllique hein, la façon dont ils en parlent. Et c'est pour ça que ça a été une déchirure pour tous ces Français qui ont dû rentrer parce qu'ils ont eu une sorte de c'était une déchirure, c'est vraiment le cas de le dire. Donc c'est alors moi j'ai pas vraiment vécu ça. Moi je suis arrivé en France, j'avais 2 mois. Pourquoi ce goût pour l'histoire? J'étais un élève très studieux. J'aimais, j'ai tout de suite aimé apprendre. Et je crois que c'est vous interrogez des amis, je pense que c'est ce qu'ils vous diraient de moi. J'aime apprendre, j'apprends toujours en fait. Je suis dans un apprentissage permanent. J'apprends de tout le monde. Quand j'écoute quelqu'un, j'apprends, je prends des notes. Pas forcément sur la technicité de ce qu'il me dit, mais sur parfois des impressions, des idées qui me paraissent incroyables, que je peux réutiliser moi-même pour mon management, pour la façon dont je peux communiquer avec les personnes.
Vous souhaitez progresser vous-même et vous développer en permanence.
Bien sûr. Déjà, en fait, l'apprentissage et cette envie d'apprendre, c'est déjà accepter le fait de... Alors certains vont appeler ça l'humilité, et ça l'est, probablement, d'une certaine façon. On a tous une dose de narcissisme, hein, c'est cette compréhension que nous ne sommes rien. J'avais utilisé cette formule pour Bouddha, n'être rien soi-même, mais être tout pour autant. C'est-à-dire qu'en fait, à un certain moment, on a l'impression de sa petitesse face à l'immensité de la connaissance et face... regardez, si vous regardez l'histoire, c'est infini. Moi qui suis un passionné d'histoire, je peux rester des heures à regarder des bouquins. Un bouquin m'emmène sur un autre bouquin m'emmène sur un autre texte m'emmène sur une vidéo, et des vidéos m'emmènent à regarder un autre sujet. Puis là, j'arrive et je me dis, mais mince, je connais pas ce sujet. Comment je peux ne pas le connaître? C'est infini. Donc, la connaissance est immense. On se rend compte qu'on apprend beaucoup du passé. Nous sommes le produit du passé. Hein. C'est ça. Je reviens sur le podcast 30 secondes, mais pourquoi c'était important pour moi de le faire? Parce que je crois à ça depuis toujours. Nous sommes le produit de notre passé. Et c'est valable, d'ailleurs, dans notre vie quotidienne. Ce qui fait que on est tous uniques et différents, c'est parce que nous grandissons dans une famille qui est la nôtre. On reçoit une éducation très particulière qui est la nôtre. On rencontre des personnes, des mentors, des coachs, des professeurs, des instituteurs. Et puis après, il y a nos amis avec qui on grandit. Et puis après, il y a les écoles où on va, les universités où on va. C'est ça. Et puis après, les succès, les échecs, les joies, les peines, les déceptions, et puis les accomplissements. Tout ça fait ce que nous sommes finalement et qui fait de nous un être unique et différenciant. C'est d'ailleurs ce qui arrive aux entreprises. L'équivalent de ce qu'on appellerait notre nous-mêmes, pour l'entreprise, c'est la culture. Mais il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent, parce que la culture d'une entreprise ne ressemble pas à celle d'une autre. C'est la seule chose qu'on ne peut pas copier. J'ai travaillé jadis pour un patron qui disait on peut tout copier sur une autre entreprise, à part la culture. On ne peut pas copier la culture. C'était Lou Gerstner qui a dirigé IBM pendant quelques années et qui l'a transformé et qui disait ça, et je pense qu'il avait parfaitement raison. La culture, c'est ce qu'on ne peut pas copier. Donc voilà, c'était un peu ça mon moteur en fait, en tout cas.
Une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises, qui ont le plus compté pour vous, si vous arrivez à prendre un peu de recul? Alors je sais pas s'il y en a, hein, c'est peut-être une mauvaise question dans votre cas, mais souvent je trouve ça assez parlant en fait de se dire qu'on a pris justement de son passé, de sa propre histoire, quelques valeurs qu'on a envie de garder comme notre ADN, quoi, finalement, en termes de culture et de valeurs personnelles.
Alors, c'est une bonne question. De ma mère, j'ai appris une chose, c'est que j'ai gardé finalement tout le temps, c'est ne pas tomber dans la, ne pas se laisser aller à la, ne pas se laisser séduire par la flatterie inutile. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'authenticité chez les. J'en ai parlé tout à l'heure, et donc forcément, j'applique ce que je dis. J'aime bien les gens authentiques, et donc j'aime bien les personnes qui me disent ce que je fais de bien, bien sûr, parce que de temps en temps, c'est bien aussi quand même, mais aussi qui peuvent me dire des choses sur lesquelles ils pensent que je pourrais faire mieux, etc. Les gens qui viennent vous voir et qui passent trop de pommade, comme on dit. Moi, je sais pas que ça me gêne, mais ça m'apporte pas.
Oui, vous en retirez pas de la valeur, quoi.
Voilà. Donc, et ma mère m'a toujours dit ça. Hein, m'a toujours dit, méfie-toi des compliments trop exacerbés, quoi, trop forts, trop. Voilà. Il faut de la mesure dans toute chose. De mon père, qui malheureusement est décédé l'année dernière et que j'adorais, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois que c'était quelqu'un qui incarnait la bienveillance. C'est-à-dire que je pense que c'était par nature quelqu'un que je n'ai jamais vu. Ça a pu lui arriver d'être en colère, mais vraiment, j'ai du mal à m'en souvenir. C'est quelqu'un qui était toujours de bonne humeur, toujours heureux, toujours dans le dialogue, toujours à l'écoute des autres. Je crois qu'il était passionné. Je crois que c'était ça. Il écrivait des romans, des pièces de théâtre en plus de son travail. Enfin, j'ai beaucoup. Je suis un peu le produit de mon père quelque part, hein. Et je crois qu'il m'a appris ça, l'envie d'apprendre. Je pense que lui, il a passé sa vie à apprendre, et il m'a donné ce goût de toujours me remettre en cause et de toujours aller chercher plus loin. Et puis la chance que nous avons en France, on s'en rend pas compte en France, dans les pays. On va dire occidentaux et comme la France, on a une chance incroyable. On a des profs incroyables. On va dans des écoles incroyables. On est dans une démocratie où la liberté de parole existe. On a une chance infinie. On s'en rend même plus compte en réalité. D'autres n'ont pas cette chance-là. Bien sûr que non. Donc quand on a cette chance, ben on en profite.
Je vous remercie, Gérald, de nous partager ces choses assez personnelles. Et alors, j'aimerais continuer pour terminer justement sur un point peut-être un petit peu plus personnel, parce que c'est les questions que je pose toujours à la fin, si vous l'acceptez. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec dont vous pourriez nous parler, et puis surtout au-delà de l'échec, des enseignements que vous avez pu en tirer pour vous à titre personnel?
Alors, grand échec, j'ai beaucoup
ou
de mal à...
Ou un moment de doute, ça peut être un moment de doute aussi.
Oui, parce que en fait... Mais ça me permet de dire autre chose que j'enseigne également avec mes étudiants quand j'ai l'occasion, c'est que en fait bien sûr qu'on a tous des échecs. Gros échecs, non, j'en ai pas vraiment eu, pour une raison simple, c'est que personnellement j'en ai pas eu, mais professionnellement je dirais que pas vraiment, parce qu'en fait j'ai toujours anticipé les choses. C'est-à-dire que plutôt que de me laisser guider dans ma vie, j'ai un moteur, j'ai une ligne. C'est-à-dire que ma ligne à moi, ce n'était pas. J'ai toujours essayé d'avoir un chemin de carrière en suivant un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'était d'avoir de plus en plus d'expériences qui m'enrichissaient et qui complétaient mon parcours. Je déteste m'ennuyer. Donc quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose, je préfère moi prendre l'initiative de bouger, d'aller sur autre chose, plutôt que d'attendre le moment où il est trop tard.
Je comprends.
Donc, je pense que les grandes catastrophes en matière professionnelle, j'entends, arrivent quand justement on attend trop. Et donc, on se fait licencier et alors qu'on s'y attend pas. Voilà. Et j'ai jamais été confronté vraiment à cette situation. Peut-être une fois, mais. Parce que c'était plus lié à un aspect plus personnel, où j'ai décidé de quitter pour d'autres raisons. Mais non, je n'ai jamais vécu ça pour cette raison. Mais c'est important de le dire, parce que c'est de dire, en fait, moi je dis toujours à mes équipes, prenez votre destin en main. C'est trop facile quand les gens disent, oui, mais l'entreprise n'investit pas assez sur moi. Ben oui, mais l'entreprise peut investir sur une personne, mais il faut d'abord se prendre en main soi-même. C'est-à-dire que si vous n'exprimez pas ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez le faire, pourquoi voulez-vous que l'entreprise le fasse à votre place? Donc, je crois que là où il y a un problème, c'est quand vous exprimez ce que vous voulez faire et que l'entreprise ne répond pas présente. Et donc, vous partez ailleurs. Mais déjà, faut-il encore savoir ce que vous voulez faire? Donc moi je crois qu'il faut prendre sa vie en charge, en main, et il faut être le gestionnaire de sa propre vie déjà pour commencer.
S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment ?
Récemment, en discutant avec mon coach, je lui disais, tu vois, finalement, cette expérience que je vis actuellement, Alors c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi aussi, hein, attention, hein, c'est quelqu'un qui a été à mes côtés.
Oui, donc qui vous connaît à titre professionnel aussi.
Oui, oui, oui. Et je lui ai dit, bah, tu vois, en fait, finalement, mon ambition principale, au départ, c'était d'être prof d'histoire, après j'ai voulu être prof d'économie, mais en tout cas, prof, et alors, je le fais aujourd'hui, mais prof d'histoire, par exemple, et je pense que j'aurais adoré faire ça. Et il m'a dit, pas sûr. Il m'a dit, pas sûr, parce qu'il m'a dit, en fait, en réalité, tu prends du plaisir, oui, mais t'as quand même pris énormément de plaisir dans tout ce que tu as fait, et en particulier dans la direction d'entreprise. Parce que ce qu'on a dans l'entreprise, quand on dirige des équipes, on est dans des kick-off, des lancements de réunions avec des clients, des partenaires, dans le management d'équipe, on est sur des projets où on est, il y a de l'intensité parce qu'il faut gagner une affaire, il faut pas la perdre, et puis parce que on lance une nouvelle offre, quand on a des jobs internationaux, on découvre de nouveaux pays, de nouvelles cultures, ça c'est fabuleux, hein, la découverte de cultures. Et de cette importance-là, et il m'a dit, t'aurais pas pu te passer de ça, en fait. Si t'avais fait uniquement prof, tu aurais eu un vide. Aujourd'hui, tu me dirais, j'aurais dû faire dirigeant d'entreprise. Donc, en fait, je crois qu'on, non, j'ai pas de regrets, de regrets majeurs. J'aurais aimé, peut-être, si je dois en citer un quand même, je me dis que j'aurais aimé avoir le talent d'écrire des romans. J'ai essayé. Hein.
Il n'est jamais trop tard, Gérald.
Oui, mais je pense que j'écris des livres qui marchent bien, mais roman, c'est autre chose. Et je pense que voilà, quand je l'ai fait une fois, et puis quand je l'ai relu, je l'ai pas trouvé bon, donc je l'ai même pas envoyé. Je l'ai pas envoyé. Et je trouve que j'aime tellement la littérature que j'ai pas envie de faire quelque chose de moyen. Mais j'admire les écrivains parce que ils ont cette capacité en quelques lignes. Vous voyez, Albert Camus qui commence L'étranger, qui a été vraiment le livre qui m'a inspiré au départ, où il dit « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être demain, je ne sais, ou peut-être hier, je ne sais pas. » Et ces deux phrases qui, sans prétention finalement, mais posées comme ça en première ligne d'une première page, on est saisi. Voilà. Et moi, je trouve que la littérature, et d'ailleurs comme l'histoire, une source d'inspiration dans le management et le leadership, bien sûr. Les écrivains, les philosophes ont cette capacité à générer des idées qui inspirent beaucoup de gens.
Je suis obligée de vous poser la question. C'est en général la dernière question que je pose, mais donc je vais la poser. Est-ce qu'il y a un livre, et peut-être de littérature justement, qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus inspiré, que vous recommandez le plus autour de vous, que vous pourriez partager avec nous?
Alors moi je dirais deux œuvres. Bon, je viens de citer Albert Camus parce que je pense qu'Albert Camus il a quand même écrit des livres qui sont des monuments, hein, et il a écrit des livres philosophiques très complexes, hein, mais en même temps des livres très accessibles comme L'étranger, bien qu'il ne soit pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de il faut le lire plusieurs fois pour bien en saisir la pertinence. Mais Camus. Mais sinon moi je voudrais citer plutôt deux sagas. Ce que moi je les appelle les sagas, c'est toute l'œuvre d'Albert Cohen, dont Belle du Seigneur, mais après il y a Manche-Clou, Les Valeureux. Moi d'ailleurs, quand on veut découvrir Albert Cohen, il faut commencer par Les Valeureux, parce que Belle du Seigneur c'est magnifique, c'est peut-être le livre que je citerai en premier, mais Les Valeureux, c'est drôle. C'est on rentre dedans, dans cette famille de Céphalonie, et on est emporté par quelque chose. Et puis le pendant, c'est-à-dire que c'était son meilleur ami, et c'est Marcel Pagnol. Et c'était des amis tous les deux. L'un était en Grèce, l'autre était dans le sud de la France à Aubagne. Et il y a toute cette œuvre qui nous a fait tous rêver. On a tous lu La gloire de mon père, Le château de ma mère. On a tous lu ça. Et c'est marrant de voir la similitude qu'il y avait entre ces deux auteurs qui écrivaient dans des contextes différents, des histoires différentes, mais qui en fait se rejoignaient sur plein de choses parce qu'ils, déjà, ils étaient amis.
Bah, je vous remercie, vous me donnez très envie de lire Les Valeureux que je ne connaissais pas, et donc je pense que je vais m'y coller juste après cette interview, Gérald. Encore quelques petites questions pour vous. Est-ce qu'il y a une maxime, est-ce qu'il y a des mots de sagesse, une citation qui vous parle particulièrement, que vous pourriez nous partager si jamais, il y en a une, hein, bien sûr, sinon ce n'est pas la peine.
Moi j'aime bien la phrase de Mandela, je la cite de tête, hein, donc peut-être qu'elle n'est pas totalement... Exact, mais c'est l'éducation est l'arme la plus puissante qui existe. Hein. C'est-à-dire qu'il met en avant cette importance qu'a l'éducation et l'arme, je crois que c'est ça, il dit l'éducation est l'arme la plus puissante qui nous permette finalement d'avancer. C'est un peu ça l'esprit de sa citation. Et au passage, en termes de leadership, Mandela est quelqu'un de tellement incroyable. Moi, c'est la seule personne, au fond, dont je n'ai toujours pas vraiment saisi la psychologie. Je me dis, il est tellement énorme en termes de force, de bienveillance et de mental. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui a su faire passer sa rancœur, sa haine, tout ce qu'on éprouverait normalement, un être normal éprouverait. Il sort de prison après, je crois, 27 ans de prison, et au lieu de chercher à se venger, il rassemble autour d'un objectif qui est vraiment de réunir ces cultures différentes au sein de l'Afrique du Sud, monumental. Et donc, il le fait entre autres. Alors, il le fait d'ailleurs dans mon livre, le dernier, l'art de bâtir une équipe. Je cite le fait qu'il a utilisé le rugby pour sceller tout le monde autour de cet objectif de gagner la Coupe du Monde, et il va y arriver en plus. C'est ça qui est incroyable. Mais je crois qu'il s'est beaucoup servi de l'éducation. Et moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ma vie.
Une croyance qui est controversée. Est-ce que vous avez une croyance, quelque chose auquel vous croyez tout simplement, et vous constatez que le monde autour de vous, ça peut être la France, ça peut être le monde dans sa globalité, n'est plutôt pas d'accord? Pour vous donner un exemple, je cite souvent un de mes invités qui m'a dit les personnes âgées ne sont en réalité pas plus sages parce qu'il y a tellement de biais cognitifs avec l'âge qui avance qu'en réalité, cette idée de plus de sagesse avec l'âge n'est pas totalement vraie. Oui, il y a plus d'expérience, mais il n'y a pas plus de sagesse. Donc voilà, c'est une petite anecdote rigolote où j'ai pu avoir des personnes qui m'ont dit qu'ils pensent qu'on est en fait en train de vivre la plus belle époque qu'on a jamais vécue et que donc tout le pessimisme ambiant, ça, c'est pas quelque chose auquel ils adhèrent. Bref, voilà. Donc, est-ce qu'il y a pour vous aussi, Gérald, une croyance que vous auriez cultivée qui est controversée?
Je pense que c'est assez vrai ce que disait la personne. C'est-à-dire que je pense qu'on trouve des personnes âgées qui sont très, très sages, mais on en trouve qui ne le sont pas du tout. Et il y a des personnes qui, au contraire, sont très jeunes et qui sont très sages. Et question de là encore, on revient à ce qu'on a vécu. Et c'est un peu... C'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté toute sa vie, il n'a aucune raison d'être sage à la fin de sa vie.
C'est vrai. C'est pas tout d'un coup l'âge qui va faire qu'il va devenir sage.
Alors moi je sais pas si c'est un décalage, mais en tout cas c'est quelque chose que j'observe qui est en train de se... Vous voyez, le nombre de personnes qui nous parlent aujourd'hui d'opposition de civilisation, la guerre de civilisation, où on se dit finalement, je suis intervenu il y a pas longtemps à l'ambassade du Liban. Au passage, l'ambassadeur du Liban est quelqu'un de formidable en France, et sur le thème j'ai fait une petite intervention sur le thème de l'Orient et l'Occident, la fusion, et de l'Orient et de l'Occident, qui a été recherché par Alexandre le Grand, et qui était le premier à avoir cette vision qu'il fallait rassembler l'Orient et l'Occident, parce que on tire un bénéfice de la diversité, pas l'opposé. Moi, j'observe que on a tendance à avoir des discours de plus en plus restrictifs, nationalistes, où on se dit, voilà, c'est moi dans mon coin et face au reste du monde, et à opposer les civilisations. Et moi, j'ai la conviction, c'est tout à fait l'inverse. Et l'expérience que j'ai, ce que j'ai pu apprendre dans les jobs internationaux que j'ai pu avoir notamment, c'est que il faut toujours garder à l'esprit qu'une une même communication, vous faites une note quand vous êtes dirigeant d'entreprise et vous l'envoyez à toutes vos équipes à travers le monde entier. Cette note ne sera pas du tout perçue de la même façon par un Japonais, par un Égyptien, par un Brésilien, un Américain ou un Italien. Pourquoi? Parce que ils ont pas la même culture, ils ont pas la même religion, ils ont pas grandi de la même façon, ils ont une appréhension de la vie qui n'est pas la même. Et donc, il faut absolument comprendre que ce n'est pas une civilisation, la civilisation occidentale qui serait supérieure aux autres. Et puis en plus, cette conviction qu'on a que tout le monde a envie de nous ressembler, non. Il y a des civilisations. Récemment, un ami qui je déjeunais me disait, j'ai beaucoup aimé l'image, il me disait, quand on est en Europe et en France notamment, quand il y a des personnes ont des cartes du monde affichées à leur mur, et en fait le centre de cette carte, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit l'Europe, puis on voit l'Amérique du Sud et du Nord, et puis l'Asie après. Et lui, il était en Chine, et une fois il voit une carte comme ça sur un mur, et puis il y a quelque chose qu'il surprenait. Il n'arrivait pas à la reconnaître, tout simplement parce que la carte était centrée sur l'Asie et la Chine, Et puis l'Europe était de son côté, et puis les États-Unis encore plus loin, et puis il y avait l'Océanie de l'autre côté. Parce que ça dépend comment on regarde les choses. Il y a pas de civilisation supérieure à une autre. Il y a des civilisations. Et j'ai cette conviction que c'est le fait de se comprendre, de s'écouter, de se respecter, qui fait que le monde va aller mieux. Parce qu'on va pas y arriver si on pense que on est dans une guerre de civilisation et que ça va se terminer comme ça. Bah oui, mais ça va pas bien se terminer du coup. Hein. Non, je pense qu'il faut accepter que d'abord, soyons réalistes, hein, 14% de la population mondiale, c'est la somme de l'Europe et de l'Amérique du Nord, incluant le Canada. 14%. Donc, on peut se dire que vu la façon dont évoluent les populations, que ce soit
c'est en réduction en plus.
Voilà, l'Inde qui va devenir le premier, qui va passer devant la Chine en termes de nombre de personnes, la Chine bien sûr, puis après l'Afrique qui est en train de croître de façon importante, l'Europe va être en minorité et l'Amérique du Nord aussi. Donc, et on sait que la démographie est hyper importante sur le plan économique, sur le plan de la dynamique sociétale.
Écologique aussi.
Donc, c'est presque une bataille perdue d'avance si on raisonne comme ça. Il vaut mieux raisonner en se disant que nous avons des cultures différentes et que chacun peut tirer des choses de l'autre. Mais il faut d'abord se respecter. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a toujours, on parle d'histoire, je suis le premier à le savoir et à le dire, il y a beaucoup de signes actuellement, d'ailleurs, qui ressemblent à ce qu'on a vécu, malheureusement, si on se replace juste avant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de choses qui appellent à la prudence aujourd'hui, à la vigilance. L'histoire est un éternel recommencement. Mais oui, on trouvera toujours des personnes qui chercheront la bagarre. Mais la réalité, c'est que si le monde se comprend mieux, c'est des choses qu'on arrivera à juguler. En 39-45, on est en 1940, quand Churchill prend les rênes de l'Angleterre en tant que Premier ministre, il est le premier et probablement le seul d'abord à avoir lu Mein Kampf, parce que je pense que personne ne l'avait lu, et il est le seul à avoir attiré l'attention de tous les démocrates en disant « Attention, vous ne vous rendez pas compte ce qui est en train de se préparer. Oui. » C'est le seul qui sonne l'alarme. Eh bien, je pense que il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il était amoureux du monde libre. Mais amoureux du monde libre ne veut pas dire amoureux de sa civilisation, la sienne. Ça veut dire c'est de vouloir un monde dans lequel tout le monde se retrouve moi je veux que tout le monde puisse pratiquer la religion qu'il a envie, vivre dans sa civilisation, vivre dans sa culture, en harmonie avec les autres. Alors on n'est pas dans un monde de bisounours, on sera jamais dans un monde où il y aura toujours des frictions, mais on peut se respecter. Et moi je crois à ça. Donc c'est pas une opposition, mais c'est pas ce que je vois actuellement.
Ouais.
J'entends plutôt l'inverse. Moi ce que j'ai vécu en tant que dirigeant, c'est que quand je vais en Égypte, quand je vais au Japon, on voit des cultures qui n'ont rien à voir, qui sont magnifiques, dans lesquelles on peut apprendre plein de choses. Et eux peuvent apprendre de notre culture, qui est magnifique également, bien sûr.
C'est passionnant, Gérald. Je suis bien contente de vous avoir posé cette question, parce que c'est vrai qu'elle ouvre beaucoup de perspectives et je pense qu'elle va faire réfléchir mon audience. Dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis ? Peut-être récemment ou non ?
L'environnement. C'est-à-dire que c'est pas changer d'avis. C'est un sujet, il y a encore 5-6 ans, je dirais, dans ces eaux-là, je suis vraiment honnête, c'était pas un sujet pour moi. C'est-à-dire que je me concentrais pas dessus. C'est pas que ça m'indifférait, j'étais pas indifférent, pardon.
Oui, c'était pas dans votre zone de, réflexion.
Pas dans mon agenda. C'était pas dans mon agenda. Et là, peu à peu, finalement, je m'en rends compte au fur et à mesure que les années se sont passées, mais là, probablement ces 3-4 dernières années, j'ai pris vraiment conscience, je commence à prendre conscience vraiment de ce qu'on a fait de la planète et des risques qui sont derrière nous. C'est-à-dire que je me dis, finalement, en tant que dirigeant, et nous, on a faut rester à sa place, mais faut qu'on s'en occupe, quoi, parce que ça fait un peu peur. Là, on pense à ses enfants, puis surtout aux petits-enfants, et à ce qu'on va laisser derrière nous. Il y a des endroits où on n'a pas vraiment de quoi être fier.
Clairement. Gérald, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Pour terminer, je sais que vous êtes très actif sur LinkedIn et que vous répondez à tout le monde, vous nous l'avez dit. Donc, si jamais on veut vous suivre, si jamais on veut continuer à voir vos actualités, déjà, donc on a évidemment le podcast avec Franck Ferrand. Qui s'appelle quoi, Les Leaders de l'Histoire, je crois.
Ça s'appelle Grand Leader, les leçons de l'histoire. Et c'est sur Radio Classique, mais c'est évidemment sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et je profite, c'est bien de me poser ces questions parce que je profite d'une chose, parce que pour tous les auditeurs qui sont nombreux, vous pouvez évidemment, et j'en serais très honoré, me suivre sur LinkedIn, mais malheureusement, je ne peux plus accepter d'invitation. Vous pouvez me suivre, on clique sur le bouton suivi. Et la raison est très simple, c'est que j'approche les 170 000 followers abonnés, personnes qui me suivent. Mais par contre, pour une raison que j'ignore toujours, mais peut-être que vous en connaissez la réponse, Pauline, LinkedIn met une limite en termes de personnes.
Le nombre de personnes de relations.
À 30 000. Donc, à bout de 30 000, on peut plus accepter qui que ce soit. Donc, je suis désolé, c'est pas du tout, de ma part, quelque chose.
Ce n'est pas du snobisme, c'est un problème technique.
J'aimerais accepter tout le monde parce que, c'est ça le principe d'un réseau, mais ça n'est pas possible. Donc, surtout ne vous vexez pas de ça. Mais par contre, même les personnes, et j'ai du retard là, parce que je dois avoir 2000 personnes en attente qui m'ont demandé une invitation et je vais répondre. Et généralement, je réponds en disant, je suis désolé, je peux pas vous accepter, mais suivez-moi. Et en tout cas, voilà, on peut échanger, vous pouvez m'envoyer des messages, et j'y répondrai peut-être avec lenteur, mais j'y répondrai.
Oui, c'est ça. Le fait de ne pas être en relation, on permet quand même d'envoyer un message s'il le faut. Donc, pas de problème.
Et les personnes, et d'ailleurs, les personnes le comprennent très bien et elles m'écrivent. Alors, je peux pas vous dire que je réponds
à tout immédiatement, j'imagine.
Dans le détail, parce que c'est impossible, ce serait pas humain. Il faudrait que j'ai une personne qui s'en occupe. Ce que font beaucoup de dirigeants. Moi, je refuse de faire ça. Donc, tout ce que je fais en bien ou ce que vous trouvez moins bien, c'est moi.
On a tombé les masques. Écoutez, c'est un bon mot de la fin, Gérald. Je vous remercie mille fois pour votre temps, très précieux. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer la discussion, peut-être en se rencontrant une fois en vrai, puisque là, c'était une interview à distance. Mais en tout cas, je vous remercie mille fois pour votre temps.
Avec grand plaisir. Merci, Pauline, pour l'invitation.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.